Dans le cadre de sa campagne dénommée Congolais Téléma, autrement dit Congolais lève-toi, la première ministre de la RDC est à Bandunduville dans le Kwilu depuis hier dimanche. Judith Suminwa-Tuluka a, au cours de sa première visite dans cette province, tenu un meeting populaire à la tribune du camp Onatra. L'ouverture de la session ordinaire de mars a eu lieu le 15 mars au Parlement. À cette occasion, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a plaidé pour une loi qui rendra le service national et les services militaires obligatoires pour toute la jeunesse congolaise. Le professeur Jeff Mudimbi, docteur en sciences politiques et administratives de l'Université de Lubumbashi, est l'invité de ce journal. Il va revenir sur le pourparler de Luanda qui auront lieu demain, mardi 18 mars. Bonjour à tous. La délégation de la République démocratique du Congo compte se rendre demain mardi 18 mars à Luanda en Angola. C'est pour répondre à une initiative du médiateur angolais João Lourenço tendant à relancer le processus de paix violé et saboté par Kigali et ses supplétifs du M23 AFC. C'est ce que dit en tout cas un communiqué officiel relayé par l'agence congolaise de presse ACP hier dimanche. Jusque-là, la composition de la délégation congolaise et ses missions ne sont pas encore connues officiellement. Mais Mambu Sitasumbu, l'un des conseillers du président Félix Tshisekedi, a remis un message de la RDC au médiateur angolais dont le contenu n'a pas été divulgué. En ce qui le concerne, la RDC a toujours répondu positivement à toutes les initiatives des médiations régionales ou sous-régionales, indique l'agence congolaise de presse. Et puis la nouvelle société civile dit rester prudente par rapport à ce qu'il appelle revirement du chef de l'État qui vient de franchir la ligne rouge en prenant acte de la tenue des négociations directes avec le M23. Mais le coordonnateur national de la nouvelle société civile encourage tout de même la tenue de ces pourparlers entre le gouvernement et le M23. Pour Jonas Tshombela, seuls les Congolais doivent se retrouver à la table de ces négociations et non des étrangers. Jonas Tshombela le dit au micro d'Askenzigbia Tayoro.
Ces discussions devraient avoir lieu dans un cadre beaucoup plus global. Un, on devra associer tout ce qui était pris en considération au niveau de Luanda, au niveau de Nairobi, pour que la solution soit globale. Deux, ceux qui seront en face du pouvoir de Kinshasa ne devraient être que des Congolais. Tous ceux qui ont des nationalités rwandaises n'ont qu'à aller dans leur pays pour aller discuter des problèmes qui se concernent le Rwanda. Donc ces discussions seront des discussions des Congolais, parce que certainement dans l'M23, il y a le Congolais qui ont pris les armes. Et ceux-là doivent parler avec leurs frères qui sont en face. Trois, il ne sera pas question dans ces discussions d'intégration et de mixage. Ces mouvements rebelles devront se transformer réellement en mouvements politiques pour conquérir légalement le pouvoir par des voies démocratiques.
Le consortium pour la paix et le développement CPD, de son côté, sollicite du président angolais et président de l'Union africaine d'étendre l'initiative du dialogue au-delà du M23 et de l'AFC. Dans une déclaration faite le samedi au siège du RENADEF, le CPD plaide pour la participation des autres pays voisins et des forces vives de la nation congolaise à ce dialogue pour une paix durable non seulement en RDC, mais également dans toute la région des Grands Lacs, en comptant sur l'apport considérable des femmes de la sous-région. Il faut procéder par une approche holistique des problèmes pour résoudre la crise sécuritaire en RDC et dans toute la région des Grands Lacs, pense ainsi la coordinatrice du CPD, Marie Nyombo Zaina. Elle est avec Jeff Ngoy.
Le consortium affirme que les femmes, les jeunes et les enfants de la République démocratique du Congo et de la région de Grand Lac constituent plus de 70% de la population qui inspire à vivre dans un climat de paix, de sécurité et de cohésion sociale, gage inéluctable d'un environnement favorable au développement pour leur meilleur avenir. Le consortium sollicite de son excellence Monsieur João Lourenço, président de la République d'Angola, de ne circonscrire cette initiative qu'au dialogue direct entre, d'une part, le gouvernement de la République démocratique du Congo et, d'autre part, des délégués de l'Alliance Fleuve Congo et du mouvement M23, car la crise étant multiforme, la participation des autres États voisins, des acteurs politiques nationaux, de la société civile est le gage d'une résolution holistique des problèmes et d'un retour définitif de la paix.
Pendant ce temps, et comme nous l'avons dit dans le sommaire, la première ministre de la RDC, Judith Suminwa-Tuluka, séjourne depuis hier dimanche à Bandunduville, province du Kwilu. Cette première visite de la chef du gouvernement au chef-lieu de la province rentre dans le cadre de sa campagne dénommée « Congolais Téléma, entendez, Congolais lève-toi », qui consiste à sensibiliser les Congolais à propos de la guerre d'agression imposée par le Rwanda et le M23 AFC. Sur place, elle a tenu un meeting populaire à la tribune du camp Onatra. Son agenda à Bandunduville prévoit également des audiences avec les différentes couches de la population afin de recueillir leurs desiderata. Depuis Bandunduville, Irène Bomaluzolo.
À son arrivée à l'aéroport national de Bandundu, la première ministre congolaise a été chaleureusement accueillie par les autorités politico-administratives et une foule en liesse venue nombreuse pour la circonstance. S'adressant au public depuis la tribune centrale des camps Onatra, Judith Suminwa-Tuluka a sensibilisé la population, surtout les jeunes volontaires, à s'enrôler massivement dans l'armée afin de défendre l'intégrité territoriale du pays contre l'agression rwandaise et le M23 à l'est du pays. À l'occasion, la chef du gouvernement congolais a aussi annoncé le doublement de la solde des militaires et des policiers ainsi que l'amélioration des conditions des forces de défense. Tout militaire et tout policier, à partir du mois de mars, leur solde sera multiplié par deux. Ceux qui seront déployés au front recevront également une prime de guerre. Nous ne voulons pas que les soldats envoyés au combat s'inquiètent pour leurs familles, leurs épouses et leurs enfants restés. Nous avons décidé d'intégrer tous les militaires à la Caisse nationale de sécurité. Cela signifie qu'ils commenceront à cotiser pour leur pension. Après son séjour à Bandundu, Judith Suminwa est aussi annoncée ce lundi à Kikwit pour poursuivre sa mission. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
En plus bref, ici à Kinshasa, le président Félix Tshisekedi a échangé hier dimanche à la Cité de l'Union africaine avec Ronnie Jackson, envoyé spécial du président des États-Unis Donald Trump et membre du Congrès américain. Le principal sujet à l'ordre du jour de cette rencontre, la crise sécuritaire et humanitaire qui prévaut dans l'est de la RDC, marquée par la présence des troupes rwandaises qui appuient le M23. Pour l'émissaire américain, je cite, il faut que la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC soient respecté de tous. Nous allons travailler pour que tous les obstacles qui s'érigent sur le chemin de la paix soient ôtés afin que la paix revienne à RDC. Ronnie Jackson a aussi émis le vœu de voir des investissements américains atterrir sur une terre où règne la paix. Nous allons travailler pour que les entreprises américaines puissent venir investir et travailler en RDC. Et pour cela, nous devons nous rassurer qu'il y a un environnement de paix, a insisté l'envoyé spécial du président Donald Trump. Sachez qu'en tant que membre du Congrès américain, Ronnie Jackson travaille dans plusieurs commissions, entre autres celles sur l'armement, les renseignements et les relations extérieures. Vital Kamerhe plaide pour une loi qui rendra le service national et les services militaires obligatoires pour toute la jeunesse congolaise afin de rendre l'armée capable de faire face à toute menace. Le président de l'Assemblée nationale l'a dit le samedi 15 mars dans son discours d'ouverture de la session ordinaire de mars, session marquée par l'occupation d'une partie de la RDC par l'armée rwandaise et le M23 AFC. Face aux innombrables menaces existentielles, la nécessité historique de la survie et la conservation du peuple congolais l'emporte largement sur toute forme de clivage et division, souligne le président de la Chambre basse du Parlement. Il invite les députés à lutter sincèrement pour l'unité nationale. Vital Kamerhe.
J'en appelle ici aux dignes élus de s'engager avec sincérité dans la lutte contre toute forme de discrimination et stigmatisation pour rassembler les Congolais de toute origine et appartenance politique autour de l'impératif de préserver la paix et la sécurité autant que l'intégrité de notre territoire pour les générations actuelles et futures. C'est dans ce cadre que l'initiative législative portant sur la lutte contre le tribalisme, le racisme et la xénophobie devra faire l'objet d'une attention soutenue. C'est au prix du dépassement de l'horizon des intérêts individuels que nous préserverons notre pays du spectre de la balkanisation qui plane sur lui depuis quelques décennies. Par ailleurs, il serait illusoire d'envisager la paix
sans se doter des moyens militaires indispensables à sa pérennisation. Je rappelle donc l'impératif d'augmenter les capacités dissuasives de l'armée nationale. C'est pour cela que je vous invite à examiner la possibilité d'introduire les services nationaux et les services militaires obligatoires pour mobiliser de façon coordonnée et méthodique les forces vives de la nation, particulièrement notre jeunesse, au bénéfice de la défense nationale.
Toujours le samedi 15 mars, dans son discours d'ouverture de la session ordinaire de mars, le président du Sénat, lui, appelle à la réduction du train de vie des institutions comme sacrifice de tous pour faire face à l'agression rwandaise sous le label du M23. Jean-Michel Samalukonde invite tous les sénateurs et le peuple congolais à s'aligner derrière le président de la République pour défendre l'intégrité du territoire national jusqu'au sacrifice suprême. Jean-Michel Samalukonde.
Point n'est besoin de rappeler que l'heure est grave, et même très grave. Au moment où nous ouvrons cette session, certaines villes, certains territoires et localités de l'est de notre pays sont encore sous occupation de l'armée rwandaise et de ses supplétifs de la FCM-20 en violation du droit international. Et pendant ce temps, des faits constitutifs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité sont constamment commis. La République démocratique du Congo paye le prix fort du fait de son hospitalité et des richesses naturelles dont Dieu l'a doté. Aux ennemis de notre pays, nous disons que nous ne plierons ni ne céderons jamais. La réduction du train de vie des institutions doit être considérée comme l'une des mesures phares de l'effort que nous apportons à la guerre. Soyons déterminés et alignons-nous derrière le commandant suprême de nos forces armées. À nos forces de défense et de sécurité, je tiens à les assurer, peuvent compter sur l'accompagnement du peuple congolais que nous représentons.
C'est un dossier signé Michel Kifindangoy. Venons-en au calendrier pour les élections du gouverneur, vice-gouverneur et des sénateurs des provinces du Kwilu et du Nord-Ubangi. Ce calendrier a été publié par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Selon un communiqué de la CENI datant du 13 mars, le processus va se dérouler pendant la période allant du 17 mars au 24 avril 2025. Le même communiqué rappelle que la mise en œuvre de ce calendrier électoral est conditionnée par la mise à disposition à temps des moyens financiers nécessaires. Plus de détails avec vous, Irène Bomaluzolo.
Conformément à ces communiqués de la CENI, du 17 au 26 mars 2025, c'est la période d'accréditation des témoins, des observateurs et des journalistes au niveau des secrétariats exécutifs provinciaux de la CENI. Le 29 mars interviendra l'affichage des listes officielles des candidats et marque aussi le début de la campagne électorale qui va s'étendre jusqu'au 31 mars. Quant au jour du scrutin proprement dit, sachez qu'il est prévu pour le 2 avril 2025. À ce jour même des votes, les résultats provisoires seront affichés et annoncés officiellement par la CENI. Du 4 au 11 avril, période prévue pour le dépôt des recours en contestation des résultats provisoires, cela devant la Cour constitutionnelle pour les sénateurs et devant les cours d'appel de Bandundu et de Gbadolite pour les gouverneurs et vice-gouverneurs. Le traitement des contentieux électoraux aura lieu du 12 au 18 avril, puis la publication des résultats définitifs va intervenir le 19 avril. Et enfin, le 24 avril, c'est la transmission des dossiers des élus au président de la République. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Le centre-ville de Lubumbashi dans le Haut-Katanga est de plus en plus sale. Les travaux d'assainissement de grande envergure qui se faisaient se font de plus en plus rares. Les marchés pirates refont surface et les mesures d'hygiène sont de moins en moins observées alors que des cas de choléra sont enregistrés dans toutes les communes de la ville. Un reportage de Jean Gando.
Des tas d'immondices sont visibles à plusieurs endroits au centre-ville de Lubumbashi. C'est notamment à l'angle des avenues Chef Katanga Njamena, 30 juin et Tabora, Lomami et Mwero, Lomami des usines, sur l'avenue Mwero Coin Sendwe et Mwero Kasai. D'autres axes sont parsemés des nids de poules, à l'instar de l'avenue des usines, tronçon compris entre les avenues Sendwe et Kasai, qui mènent vers le grand marché de la ville. Ce n'est pas tout. Certaines canalisations sont bouchées, obligeant les eaux à se déverser sur la voie publique. Exemple de l'avenue Kasai coin chaussée Musée Laurent Désiré Kabila ou encore au croisement des avenues Mouero et Sendoué. Ici, les eaux usées dégagent une odeur nauséabonde. Toujours combattus mais jamais vaincus, les marchés pirates apportent aussi une bonne dose de désordre et d'insalubrité. Par moments, les marchands envahissent des avenues au point de rétrécir l'espace, obligeant les piétons à chercher par où passer de peur de se faire percuter par des véhicules. Le cas des avenues qui sont autour du bâtiment dit Grana, qui pourtant héberge plusieurs services de l'État. Toutes les initiatives entreprises par la mairie de Lubumbashi pour l'assainissement de la ville et la lutte contre le marché pirate semblent s'essouffler aux grandes dames de la population. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au lendemain de l'annonce par l'administration du président américain Donald Trump d'une mise en congé général des personnels contractuels de Voice of America, la Voix de l'Amérique, qui forment l'essentiel des services non anglophones de VOA, ont dit avoir reçu hier dimanche un mail leur notifiant que leur contrat prenait fin à la fin de ce mois. La mise en congé des personnels des radios Voice of America, Radio Free Asia et d'autres médias publics avait été signifiée le samedi dans le cadre de coupes budgétaires promises par Trump. De nombreux contractuels de VOA ne sont pas des citoyens américains et risquent de voir, pour se baser aux États-Unis, leur permis de séjour remis en cause selon l'agence France-Presse. Donald Trump a signé vendredi un décret qui range l'agence gouvernementale chapeautant ces médias qui comptait 3384 employés en 2023 parmi les éléments inutiles de la bureaucratie fédérale.
L'invité.
La délégation de la République démocratique du Congo devra se rendre demain mardi 18 mars à Luanda en Angola pour répondre à une initiative du médiateur João Lourenço tendant à relancer le processus de paix. Celui-ci pourrait donner lieu à des négociations directes entre le gouvernement congolais et le M23. Quelle chance accorder à toutes ces démarches diplomatiques pour le rétablissement de la paix dans la région des Grands Lacs? Nous recevons dans ce journal le professeur Jeff Mudimbi. Il est docteur en sciences politiques et administratif de l'université de Lubumbashi. Il est interrogé par Jean Gandou.
Professeur Diouf Moudimi, bonjour.
Bonjour, monsieur Jean Gandou.
La résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies a non seulement condamné l'avancée du M23 soutenue par le Rwanda, mais elle a aussi condamné le soutien par la RDC de FDLR. Et par la suite, elle a recommandé aux deux parties de dialoguer pour une issue pacifique à cette crise. Pensez-vous réellement que ces recommandations soient efficaces pour une paix durable, notamment dans la région des Grands Lacs?
Je pense que ces résolutions-là peuvent connaître un problème sérieux d'efficacité parce que il n'y a pas eu des moyens, des contraintes pour amener les différentes parties à s'engager réellement. Et comme vous le savez, le droit international présente une certaine faiblesse, c'est que c'est un droit qui ne compte que sur la bonne volonté des parties. Alors, cette bonne volonté-là n'existant pas de deux côtés, il est vraiment difficile ici que de telles recommandations puissent aboutir à des résultats escomptés.
C'est vrai que cette résolution n'a pas de pouvoir coercitif, mais nous voyons qu'il y a certaines institutions, certaines structures qui condamnent quand même le Rwanda. Ne pensez-vous pas que cela puisse pousser le pays incriminé à s'allier sur ce qui est attendu de lui?
Il est vrai que ces différentes condamnations-là constituent ou nous pouvons les aligner sous l'angle de l'opinion publique. Et comme vous le savez, l'opinion publique agit bien entendu, mais quand nous regardons la nature de dirigeants face à l'opinion publique, pour le cas du Rwanda, nous avons affaire à un gouvernant dominant l'opinion, c'est-à-dire que l'opinion elle est là, elle exerce une certaine pression, mais le dirigeant fait aussi un effort pour dominer cette opinion et créer de toutes pièces une autre opinion qui lui est favorable.
Et nous savons également que plusieurs résolutions ont déjà été adoptées ou votées au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la RDC, mais sans vraiment que la donne ne puisse changer sur le terrain. Que préconisez-vous pour que cette résolution, la dernière donc, soit efficacement appliquée et qu'elle apporte une solution définitive à la crise qui prévaut dans la région des Grands Lacs, notamment dans l'est du pays?
Je pense que la résolution devrait être accompagnée des moyens de contraintes. Et en l'absence de la bonne foi des parties, je pense qu'il n'y a que des moyens contraignants qui peuvent amener les gens ou les parties à se plier à la résolution qui a été adoptée.
Moyens contraignants, vous pensez à quoi?
Bon, c'est pratiquement les sanctions, notamment, qui sont des moyens auxquels la communauté internationale fait souvent recours.
Après les refus catégoriques du gouvernement de Kinshasa de négocier avec les M23, donc Kinshasa vient enfin d'accepter qu'il y ait un dialogue direct avec avec ces groupes rebelles sous la médiation de l'Angola. Pouvons-nous espérer enfin voir la fin des hostilités quand on sait que tous les leaders du M23 sont condamnés et d'autres croupissent sous le mandat d'arrêt?
D'abord, quand on s'engage dans une discussion ou encore dans une négociation, on ne peut pas y aller tête inclinée. C'est que la RDC y va avec un point de vue qui constitue pratiquement ici sa force. Il en est de même aussi du M23. Alors, pour la RDC, le fait déjà qu'il y ait de résolutions condamnant le Rwanda et le M23 constitue une force pour le pays. Mais pour le M23, les portions des territoires conquis dans l'est du pays constituent aussi une force pour ce mouvement-là. Alors, chacun y va en position de force.
Et donc, il faudrait qu'il y ait des concessions.
À coup sûr, il faudrait qu'il y ait des concessions pour qu'on arrive à une solution mutuellement acceptable. Même quand aujourd'hui, la RDC accepte de négocier avec le mouvement M23, je ne pense pas que ce soit de bon gré. Donc, en faisant une analyse minutieuse, on peut s'imaginer que on veut imposer à la RDC ce qu'il convient d'appeler la paix des puissances. C'est-à-dire, entre deux belligérants, s'ils n'arrivent pas à s'accommoder, alors il y a une puissance étrangère qui s'impose, qui donne un coup à l'un comme aussi à l'autre, les obligeant ainsi de faire quoi? De s'accommoder, de trouver une solution mutuellement acceptable.
Enfin, que pensez-vous de la démarche des églises catholiques et protestantes, mais aussi la position de l'opposition politique congolaise?
C'est pratiquement ici deux démarches diamétralement opposées, parce que pour les églises, il faudrait que l'on arrive à la négociation, mais ce point de vue-là n'est pas partagé par l'opposition. L'opposition en RDC, d'abord, elle est plurielle. Il y en a qui demandent carrément que l'on refasse les élections, ou que l'on ne puisse pas négocier et que l'on attende directement en 2028. On ne voudrait pas que le président de la République puisse se présenter parce qu'il aura ainsi consommé ces deux mandats.
Jeff Moudibi, je vous remercie.
Merci aussi à vous qui avez suivi ce journal présenté par Noéla Luzitu Kabambi et mis en onde par Debs Vita, un journal supervisé par Alain Irung.